Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour et bonsoir selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 19 septembre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. La feuille de route pour l'expansion des relations irano-tadjiques seront bientôt finalisées. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le président Ibrahim Raisi a salué samedi l'adhésion à part entière de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, le qualifiant de succès diplomatique. Les groupes terroristes actifs contre l'Iran depuis le nord de l'Irak seront démantelés, a promis le général Borrelli. Et puis la CIA avait averti sur la présence des enfants avant qu'un missile américain ne tue 10 personnes en Afghanistan. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président Ibrahim Raisi a salué samedi l'adhésion à part entière de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, le qualifiant de succès diplomatique. Le président Raisi affirme que la présence de l'Iran en tant que membre clé de l'Organisation de coopération de Shanghai permettra désormais d'établir une relation économique solide en faveur des intérêts du peuple iranien. Cette réalisation signifie connecter l'Iran à l'infrastructure économique et aux ressources durables de l'Asie, a-t-il ajouté. Raisi a tenu ses déclarations de son retour à Téhéran et a pris une visite officielle de 3 jours dans la capitale tadjik. Le président iranien vient d'assister au 21e sommet de l'OCS à Douchanbé, où l'adhésion à part entière de l'Iran à cette organisation intergouvernementale à caractère politique et économique active en Asie a été officiellement approuvée. Le président iranien s'attarde également sur la position de l'Iran envers l'Afghanistan, évoquée en marge du sommet, lors d'une conférence de presse avant de quitter Douchanbé. Ibrahim Raisi a souligné que l'Iran ne permettrait jamais que ses frontières, près de l'Afghanistan, se transforment en une base d'opération des groupes terroristes, comme Daesh. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Hossein Borrelli, a averti que Téhéran détruirait les bases de groupes terroristes anti-iraniens dans le nord de l'Irak s'ils organisaient de nouvelles attaques contre les Iraniens. Le général Borrelli a déclaré que l'Iran ne tolérerait aucun méfait sur régions frontalières. Se référant à une opération antiterroriste menée par le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI, il y a 2 semaines, le général Borrelli a déclaré que de telles réponses contre les groupes terroristes prendraient de l'ampleur s'ils continuaient à organiser de nouvelles attaques. Il a également appelé le gouvernement régional du Kurdistan et le gouvernement irakien à contrer les groupes anti-iraniens actifs en Irak. Les autorités irakiennes doivent empêcher les groupes armés actifs dans la région d'avoir des casernes d'entraînement, des stations de radio et de télévision et des camps, a-t-il insisté. La région autonome du Kurdistan irakien a longtemps été utilisée par des groupes anti-iraniens tels que le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK et sa filiale terroriste, le PAJAK, pour lancer des attaques sporadiques contre les zones frontalières iraniennes. L'Iran a appelé de nouveau les États-Unis à abandonner leur approche unilatérale envers l'accord multilatéral sur le nucléaire de 2015, connu sous le nom officiel du plan d'action globale conjoint PGAC. Dans son briefing hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que les pourparlers à Vienne visant à relancer le PGAC avanceraient dans une meilleure direction si et seulement si les États-Unis s'éloignent de son approche unilatéraliste. Le diplomate a déclaré que Téhéran doit s'assurer qu'il peut faire confiance à Washington dans sa volonté déclarée de respecter à nouveau ses obligations liées au pacte, et cela d'une manière vérifiable. Saïd Khatibzadeh a souligné que l'Iran ne prend plus d'engagement au-delà de l'accord nucléaire, ni n'accepte davantage inférieur à ce que le PGAC avait promis. L'Iran et les autres parties à l'accord ont tenu plusieurs séries de pourparlers dans la capitale autrichienne Vienne pour relancer le PGAC qui reste en agonie. Ceci 3 ans après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord historique et la réimposition de sanctions les plus cruelles contre l'Iran. En riposte et face à l'échec d'autres parties signataires, à leur tête les Européens, l'Iran s'est affranchi progressivement de la plupart de ses obligations liées au pacte conformément aux articles de l'accord international nucléaire de 2015. Le chef de la diplomatie iranienne, Amir Abdollahian, partira demain pour New York, annonce le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrerait à cette occasion les autorités de 45 pays, dont les ministres des Affaires étrangères des 4+1. Saïd Khatibzadeh a fait part de la visite du ministre des Affaires étrangères à New York lors d'une conférence de presse dimanche et a ajouté « Amir Abdollahian partira demain pour New York pour assister à la session de l'Assemblée générale des Nations unies ». Nous avons organisé environ 45 rencontres bilatérales avec les ministres des Affaires étrangères de différents pays, de différents continents, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine et de la région, avec les chefs d'organisations internationales, le secrétaire général et le président du Conseil, et de tous ceux qui en ont fait la demande ou il y en avait la possibilité durant ce court voyage de quelques jours, a ajouté Khatibzadeh. De nouveaux détails ont été révélés sur l'assassinat par Israël de l'éminent scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. Les médias américains disent que l'agence d'espionnage israélienne Mossad surveillait depuis des années le meilleur scientifique nucléaire iranien dans l'objectif de le liquider. Le rapport souligne également le rôle important joué par l'ancien président américain Donald Trump pour faciliter l'attaque. Israël aurait utilisé une mitrailleuse de tireurs d'élite assistée par une intelligence artificielle placée sur le chemin du convoi de Fakhrizadeh pour l'assassiner. Le régime sioniste avait tenté de le tuer en 2009, mais la mission avait échoué après que les services secrets iraniens eurent découvert le complot. Pendant ce temps, les familles de 5 scientifiques nucléaires iraniens assassinés au cours de la dernière décennie par Israël ont déposé une plainte contre le gouvernement américain. Bavure américaine à Kaboul, un rapport indique que la CIA avait mis en garde contre la présence civile juste avant que le missile tiré par un drone militaire américain ne frappe la capitale afghane le mois dernier. Selon des sources bien informées, l'avertissement de la CIA a été entendu 29 secondes avant que le missile ne frappe sa prétendue cible terroriste, un véhicule tuant 10 civils, dont 7 enfants. Le 29 août, les États-Unis ont détruit ce véhicule, affirmant qu'il était chargé d'explosifs et assurant avoir ainsi déjoué une tentative d'attentat de la branche locale de Daesh en Afghanistan, en représailles au bombardement de l'aéroport de Kaboul. Le lendemain, la famille du conducteur du véhicule a rapporté que ce dernier était employé par une ONG et que 10 personnes, dont jusqu'à 7 enfants, avaient été tuées. Vendredi, l'armée américaine est revenue sur sa vision initiale et le ministre américain de la Défense a présenté ses sincères condoléances et ses excuses pour cette erreur tragique. Les familles des victimes demandent maintenant des excuses en face à face et une indemnisation pour la vie de leurs proches. Enfin, l'Arabie saoudite a mené une nouvelle frappe aérienne meurtrière au Yémen, tuant au moins 7 civils dans le sud du pays. L'attaque s'est produite dans la ville de Marrakech, dans la province de Chabwa. Les victimes ont perdu la vie après que leur voiture ait été visée mortellement. À la tête d'une coalition d'agression soutenue par l'Occident, l'Arabie saoudite a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015. Depuis lors, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie et beaucoup d'autres ont été déplacées. L'agression qui dure depuis des années a également visé les infrastructures du pays, laissant le peuple yéménite dans une misère abjecte. En proie à la famine et à la pénurie de médicaments, les Yéménites vivent depuis des années sous blocus aérien, terrestre, maritime, voire médiatique des Saoudiens. La guerre a poussé le pays dans ce que les Nations Unies appellent la pire crise humanitaire au monde. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. La feuille de route pour l'expansion des relations irano-tadjiques seront bientôt finalisées. Le président de la République islamique d'Iran, Seyed Ebrahim Raisi, a déclaré samedi que la mise en œuvre de l'accord irano-tadjique nécessite de sérieux efforts de la part des responsables exécutifs des deux pays et a ajouté « Nous avons convenu avec le président du Tadjikistan que la feuille de route pour l'élargissement des relations soit finalisée dès que possible et que ses objectifs soient opérationnels d'ici 2030. » L'ayatollah Seyed Ebrahim Raisi a rencontré le premier ministre tadjik Kohi Rasoulzadeh au palais présidentiel samedi après-midi, a rapporté l'IRNA depuis le bureau présidentiel de la République islamique d'Iran. Il a évoqué à cette occasion les accords conclus entre les deux présidents iraniens et tadjiks pour élargir les relations et augmenter le niveau des échanges bilatéraux à 500 millions de dollars, avant d'ajouter « Les bases et les capacités nécessaires pour améliorer le niveau des relations entre les deux pays sont pleinement fournies et ces capacités doivent être concrétisées. » Le président a renchéri Les accords nécessaires ont été conclus et de bons documents de coopération ont été signés entre les deux pays dans le passé, dont la pleine réalisation nécessite des efforts continus et une consultation régulière des autorités exécutives des deux parties. Nous avons convenu avec le président du Tadjikistan que la feuille de route pour l'expansion des relations soit finalisée dès que possible et ses objectifs soient opérationnels d'ici 2030, a-t-il poursuivi. Brossant pour sa part un tableau prometteur sur les potentiels de coopération Téhéran-Douchanbé et la présence économique et commerciale de l'Iran dans son pays, le premier ministre tadjik a déclaré « Nous nous réjouissons de la présence sérieuse d'activistes du secteur privé iranien chez nous dans divers domaines, à savoir l'extraction et la production d'énergie, le tourisme, les services techniques et d'ingénierie, la construction de centrales électriques, la santé et le traitement. »
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 18 septembre 2021. Le 21e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est tenu vendredi à Douchanbé, capitale du Tadjikistan, avec la participation des dirigeants de 12 États membres et observateurs. Dans un discours à la tribune de ce sommet, le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé que le monde était entré dans une nouvelle ère, que l'hégémonie américaine était en déclin. Le président Raisi a estimé que les défis mondiaux tels que le terrorisme, l'extrémisme et la pandémie de COVID-19 nécessitaient en effet une coopération collective pour être relevé. Le président iranien a par ailleurs dénoncé les États-Unis pour avoir créé le chaos en Asie occidentale. Le fait important de ce sommet, en effet, l'Organisation de coopération de Shanghai a accordé le statut de membre à part entière à la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les différents aspects de l'adhésion à part entière de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai et le repositionnement de cette alliance de l'Est à l'heure des tensions croissantes avec l'Occident. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la République islamique soutenait la diplomatie et le multilatéralisme et rejetait la politique de sanctions et d'oppression.
La diplomatie est l'un des moyens d'assurer les intérêts nationaux des pays, mais elle n'est efficace que lorsque toutes les parties la respectent dans la pratique. Les menaces et les pressions affaiblissent la diplomatie et l'empêchent de fonctionner comme il faut. Malheureusement, certaines parties en recourant aux pressions et sanctions, s'imaginent pouvoir faire fonctionner la diplomatie en leur faveur, alors que cette tentative rend pratiquement la diplomatie inefficace.
Le président Raisi a tenu ses propos lors de la 21e réunion annuelle de l'Organisation de coopération de Shanghai à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. Le président Raisi a tenu ses propos lors de la 21e réunion annuelle de l'Organisation de coopération de Shanghai à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. Il a qualifié les sanctions de grands défis pour le monde aujourd'hui, affirmant que les États dominateurs les utilisent comme un outil pour imposer leur volonté aux autres. Le président iranien a également souligné que les sanctions empêchent la coopération régionale et a exhorté l'OCS à définir des mécanismes pour lutter contre ces défis. Il a ajouté que le monde se dirige vers un nouvel ordre qui favorise les États indépendants et souverains.
Le monde est entré dans une nouvelle ère. L'expansionnisme et l'unilatéralisme sont en plein déclin. L'ordre international se dirige vers le multilatéralisme et le partage du pouvoir en faveur des pays indépendants. À l'heure actuelle, la paix et la sécurité mondiale sont menacées par l'hégémonie et des défis tels que le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme qui ont visé un large éventail de pays, notamment les membres et partenaires de l'OCS. L'Asie, comme par le passé, est au centre du changement mondial. La paix et le développement passent par la coopération avec les pays clés de la région. La politique étrangère de la République islamique d'Iran a toujours été basée sur une coopération active avec des organisations internationales dans un esprit de respect mutuel.
Le président iranien a par ailleurs condamné les États-Unis pour avoir semé le chaos dans la région, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il a déclaré que les États-Unis doivent être tenus responsables de ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Sayed Ebrahim Raisi a souligné que le seul moyen d'établir la sécurité dans la région était la coopération régionale, rejetant toute ingérence étrangère.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre attention. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis le Maroc avec Mikhaïl Egorov, analyste chroniqueur à l'agence Observatoire Continental, et depuis Bruxelles avec Xavier Dupré, économiste et analyste politique. Monsieur Dupré, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir.
Monsieur Dupré, comme vous le savez, alors le 21e sommet des dirigeants de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est tenu hier, vendredi, à Douchanbé, capitale du Tadjikistan. Une première question, quelle est aujourd'hui, justement, eu égard aux évolutions géopolitiques importantes à l'échelle internationale, quelle est la place de cette alliance politique, économique et de sécurité?
Alors, je crois qu'il faut vraiment dire que l'Organisation de coopération de Shanghai est un acteur à la fois récent sur la scène internationale et en même temps très important pour l'avenir du système des relations internationales. Puisqu'en réalité, et d'ailleurs c'est ce qu'avait indiqué dans sa communication le président Raisi, l'Asie est aujourd'hui un foyer de croissance qui sera économique, qui sera de plus en plus important à l'avenir. De ce point de vue, si l'on regarde les choses sur finalement fort peu de temps, 2 générations, 50 ans, quelles leçons retirer ? Bien, en 50 ans, on a vu l'émergence de l'Asie à plusieurs reprises. Les États-Unis qui ont été défaits durant la guerre du Vietnam, l'affirmation d'une puissance économique chinoise. Aujourd'hui, la Chine est la première économie mondiale. On a vu apparaître une industrialisation de pointe au Japon qui a été très rapide, hein, puisque au début des années 60, des pays comme le Japon et la Corée du Sud étaient encore très pauvres. Et fin des années 90, début des années 80, pour le Japon, fin des années 90 plutôt pour la Corée, c'était de grands pays industrialisés. Donc l'Asie joue un rôle central. De ce point de vue, il faut être très clair, l'ère de l'hégémonie américaine est terminée. Les Occidentaux doivent faire leur deuil d'un monde dans lequel ils exerçaient un monopole de l'influence sur le plan international. Donc, l'Organisation de coopération de Shanghai est un acteur qui va de plus en plus compter à l'avenir, puisque il y aura à la fois des volets de coopération militaire, géopolitique et stratégique. Ça va se formaliser davantage. Et ce sera davantage le cas pour la République islamique d'Iran, puisqu'en réalité, Téhéran, votre pays, aujourd'hui devient un membre à part entière de l'OCS et collaborera davantage encore avec la Russie et la Chine. Sur le plan économique, n'oublions pas que adhérer à l'OCS, cela fait cohérence d'un point de vue systémique avec le développement des nouvelles routes de la soie. Et donc, de ce point de vue, la Chine deviendra de plus en plus avec le temps un acteur économique important qui exportera des capitaux, de la technologie, puisque la montée en gamme, en valeur ajoutée de l'économie chinoise est en réalité quelque chose qui vient depuis des années et qui va se confirmer chaque jour davantage. D'un point de vue géopolitique, et en ce qui concerne plus spécifiquement l'Iran, l'adhésion de l'Iran à l'OCS, son inscription dans les nouvelles routes de la soie, eh bien, tout cela va renforcer l'importance de l'Iran sur la scène internationale, puisqu'en réalité, l'Iran, de par sa géographie, est un corridor entre l'Asie de l'Est et l'Asie de l'Ouest. Donc, cette organisation, l'OCS, va prendre de plus en plus d'importance et va renforcer la présence de l'Iran sur la scène internationale. Et je me permettrai d'ajouter de surcroît, il serait bon que nous autres Européens d'Europe occidentale nous rendions compte que la fin de l'hégémonie américaine est déjà, pour ainsi dire, là sous nos yeux, et qu'il serait bon que, à côté de l'Iran et de la Russie, et d'autres pays éventuellement, évidemment la Chine, nous puissions nous orienter vers une voie eurasienne qui nous permettrait, tout en gardant nos spécificités sociétales, de basculer d'un monde d'hégémonie américaine à un monde qui serait organisé sur la base du principe de respect des souverainetés.
Merci infiniment, Monsieur Dupré, pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre au Maroc Mikhaïl Egorov, analyste chroniqueur à l'Agence Observatoire Continental. Monsieur Egorov, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Monsieur Egorov, Monsieur Dupré a en effet passé en revue les facteurs qui confirment aujourd'hui l'entrée du monde dans une nouvelle ère, celle en effet du multilatéralisme et de la fin de l'hégémonie américaine. Alors, avec l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai et bien sûr d'autres pays, est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, avec la montée en puissance économique de la Chine, avec la formation de nouvelles alliances, notamment Iran, Russie et Chine, est-ce que le monde aujourd'hui se dirige vers un nouvel ordre mondial qui, en effet, confirme, comme disait M. Dupré, la fin de l'hégémonie américaine à différents niveaux?
Mais je pense que l'hégémonie est déjà officielle et je pense que c'est quelque chose qui est arrivé depuis déjà un certain moment. Je rejoins entièrement l'analyse de M. Dupré. Il a bien passé en revue les différents volets justement de la chose qui concerne aussi bien plus particulièrement l'Organisation de coopération de Shanghai et les perspectives pour l'Iran également. C'est tout à fait juste. Mais effectivement, aujourd'hui, nous sommes déjà dans cette nouvelle ère. Le concept multipolaire est devenu une réalité depuis déjà, je dirais, pour ma part, c'est déjà le cas depuis plusieurs années. Je en ai parlé plusieurs fois dans mes articles et dans mes interventions. C'est déjà le cas depuis plusieurs années et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le refus de l'establishment occidental de reconnaître l'ordre multipolaire international contemporain et de continuer avec un culot inimaginable à se référer à un ordre international qui est complètement révolu, dépassé et terminé, l'ordre unipolaire en l'occurrence, et par la même occasion, continuer à s'autoproclamer de façon, excusez-moi, totalement ridicule, comme étant soi-disant la communauté internationale, pour moi, c'est tout simplement c'est du négationnisme, c'est du révisionnisme, appelez ça comme vous voulez, mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui en ce qui concerne l'establishment occidental atlantiste. Parce que il est vrai que si jusqu'à maintenant, les leaders qui appartiennent notamment à l'Organisation de coopération de Shanghai affirme clairement que l'ordre multipolaire est aujourd'hui une réalité et que l'hégémonie est terminée, comme l'a bien rappelé le président iranien Ebrahim Raisi. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, vous avez pu remarquer que les représentants de l'Eurasie ne sont pas allés plus loin. Parce que s'ils voulaient enfoncer le clou, on peut le faire dès maintenant. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire que la véritable communauté internationale, elle s'est formée aujourd'hui en Eurasie. Quand on parle de l'OSS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, on parle déjà, surtout maintenant avec l'intégration en qualité de membre à part entière de plein droit de l'Iran, on parle de la moitié de la population terrestre. À l'OSS seul, cela sans compter les alliés qui partagent cette vision multipolaire à d'autres endroits du monde, en Amérique latine, en Afrique, dans le monde arabe, en tout cas de façon générale, c'est-à-dire que rien que l'OSS à elle seule, c'est la moitié de la population terrestre. Donc s'il y a effectivement une structure qui peut se parler au nom de la communauté internationale, c'est bien l'alliance eurasienne aujourd'hui qui est devenue une réalité, avec la Chine, la Russie, l'Iran et des autres pays qui appartiennent à ce bloc. L'Occident, en tant qu'extrême minorité planétaire, d'accord, d'autant plus que beaucoup des ressortissants, des citoyens des pays occidentaux, et M. Dupré a bien fait référence à cela, que les Européens doivent faire les bonnes conclusions aujourd'hui en vue de ce qui est en train de se passer, eux qui ne partagent pas justement la politique menée par leurs élites respectives, et au contraire se retrouvent beaucoup plus dans la vision multipolaire du monde, qui est devenue une réalité encore une fois. Donc effectivement, c'est plus qu'une extrême minorité dans ce cas, parce que dans ce cas, je ne suis même plus sûr que l'establishment occidental peut parler au nom de la communauté occidentale. Encore faut-il, peut-être que tant qu'ils sont en place, ils peuvent, mais en tout cas, ils n'ont aucune légitimité à référer, à se référer ne serait-ce qu'une fois à la communauté internationale. Le seul moment où la communauté politique occidentale aura la légitimité de parler au nom de la communauté internationale, c'est lorsque ce sera sur des sujets ou des dossiers dans lesquels il y aura une concertation et un accord avec les représentants de l'extrême majorité planétaire. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas, donc je pense qu'il faut que l'establishment occidental s'adapte à la nouvelle réalité mondiale, même si je pense qu'il faut être aussi objectif, je ne pense pas que cela va arriver prochainement. Mais les peuples, de nombreux pays occidentaux, y compris des pays européens, je pense que eux, pour beaucoup d'entre eux, ont déjà compris le fait que le monde multipolaire est une réalité et qu'il n'y aura pas de retour en arrière.
Merci infiniment pour ces explications, M. Egorov. Restez avec nous. M. Dupré, alors ces évolutions au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai et dans la région eurasienne, en effet, interviennent alors des tensions croissantes avec l'Occident, alors à sa tête les États-Unis. Alors, les sujets de discorde entre les États-Unis d'une part et d'autre part, la Russie, la Chine et l'Iran ne manquent pas. La question qui se pose aujourd'hui, justement, compte tenu de ces évolutions, à quoi faudrait-il s'attendre? Est-ce que l'Occident va tirer leçon justement de ces évolutions et se rendre à l'évidence ou bien les tensions vont s'intensifier?
Alors, je crois qu'il faudrait vraiment, pour répondre à votre question, préciser que, effectivement, l'Organisation de coopération de Shanghai se profile, et c'est une première pour les États-Unis depuis la chute du mur de Berlin, comme un concurrent géopolitique sérieux. C'est la première fois depuis la chute du mur que cela se produit. Donc, il y a une compétition pour le leadership. Donc, la fin du monopole d'influence américain est là, et je crois qu'il est là depuis plusieurs années, comme le disait M. Egorov. Qu'est-ce que ça signifie pour les Occidentaux? Je crois qu'il faut distinguer deux situations, je dirais même deux situations. Un, les États-Unis eux-mêmes. En ce qui concerne les États-Unis, cette situation ou cette configuration dans laquelle on voit un aiguillon, une compétition géopolitique sérieuse s'opposer à leur tentative de monopole d'influence, à leur tentative hégémonique, c'est très clair. Ça va se solder par un regain d'unilatéralisme. Et bah, globalement, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme américain ne va vraisemblablement pas diminuer. Au contraire, il va chercher à s'affirmer dans les années qui viennent. J'en veux pour preuve. Elle est déjà là sous nos yeux. Regardez finalement la différence qui existe entre Joe Biden, la présidence Biden, et la présidence Trump. Mais en fait, la différence est très, très, très... très petite, je sais, elle est infinitésimale. On est dans une politique de confrontation avec la Chine qui est décrite comme un peer competitor, c'est-à-dire un pair avec lequel on entre en compétition. Il y a des pressions sur la Russie, parce qu'évidemment la puissance militaire, le professionnalisme de l'armée russe fait peur aux États-Unis. On assistera également à des mises sous pression en Amérique latine de pays qui entrent en résistance. On connaît bien le cas du Nicaragua, de Cuba et du Venezuela, et qui sait demain peut-être l'Argentine. Donc du côté des États-Unis, on est, si vous me passez l'image, si vous me permettez d'utiliser cette image, du côté du fauve blessé. Il risque de montrer sa colère davantage qu'une volonté d'apaisement. Côté européen, je crois qu'il y a des facteurs d'espoir. Alors, attention, ce n'est pas demain ou après-demain, ce n'est pas dans 6 mois, ce n'est pas dans 1 an que l'Europe occidentale va, comme par enchantement, entrer dans une vision multipolaire de l'organisation, de l'architecture des relations internationales. Mais à moyen terme, je crois qu'un facteur va véritablement peser en faveur d'une distanciation à l'égard des États-Unis. Globalement, on voit souvent les États-Unis depuis des années. C'est structurel, c'est un pays qui est débiteur net. C'est-à-dire qu'en réalité, ils doivent pomper des capitaux partout sur la planète pour se financer eux-mêmes. Cet état de choses se traduit par une fragilité financière, fragilité structurelle du système financier des États-Unis. Donc, à terme, d'ici 5 ans, la probabilité qu'éclate une nouvelle crise financière aux États-Unis me semble assez importante. Et à ce moment-là, on verra à l'intérieur de l'OTAN les États-Unis vouloir que les Européens prennent davantage en charge financièrement leur défense. Or, nos États, à nous, en Europe occidentale, ne sont pas des États dans lesquels il y a énormément de dépenses militaires. Notre premier pilier de dépenses publiques, à raison pour la France ou la Belgique, sont des chiffres que je connais bien, ou l'Allemagne d'ailleurs, sont des systèmes quand même très, très semblables. La protection sociale chez nous représente 30 à 35% du PIB. Or, si les États-Unis nous demandent de sacrifier une partie de notre protection sociale pour financer l'OTAN, alors qu'on sera dans un contexte post-pandémie où l'emploi a été fragilisé, où il y a la question des retraites, nos populations sont vieillissantes, la question des retraites se pose davantage chaque jour. Qui dit population vieillissante dit population qui a besoin de soins de santé. Donc les dépenses de santé publique via la sécurité sociale resteront importantes. Je pense qu'on en arrivera à un moment donné à une forme de...
Merci, Monsieur Dupré.
D'impossibilité structurelle à satisfaire ces demandes. Donc il y a du côté de l'Europe occidentale une possibilité d'évolution. Par contre, du côté américain, non, on est du côté du fauve blessé. Excusez-moi d'avoir été un peu long.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Egorov. M. Egorov, en 3 minutes, s'il vous plaît, pour vous, justement, quelle tournure va prendre cette politique de confrontation entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis, mais surtout, comme disait M. Dupré, en ce qui concerne l'Europe, cette Europe occidentale et, bien entendu, cette alliance eurasienne?
Vous savez, moi je pense que effectivement, sur le court moyen terme, il n'y a pas d'illusion à se faire. Bon, plus particulièrement dans le cas américain, effectivement, je pense que la référence à une fauve blessée, elle est juste. C'est effectivement le cas, et c'est pour ça qu'il faut s'attendre et rester sur ses gardes, parce que quelqu'un qui est en perte, en chute libre, évidemment, est capable du pire. Ça, il faut bien se rend compte. Pour l'Europe, évidemment, le fait que déjà il y ait un éveil de conscience au sein d'une partie importante des populations européennes, je pense que ça donne un certain nombre d'optimisme, mais effectivement, je ne pense que sur le court moyen terme, il n'y a rien de positif à attendre. Je pense que les représentants de l'Europe dite bruxelloise, de l'Union européenne, vont rester dans une posture de sous-traitance vis-à-vis de Washington. Moi, je pense qu'il y a une chose très importante parmi les points qui ont été soulevés par le président iranien Ebrahim Raisi justement au sommet de l'OSCS à Dushanbe, c'est que déjà le fait d'avoir fait référence à l'ère multipolaire et à la fin de l'hégémonie américaine, ça c'est très important, d'avoir aussi fait référence au fait que désormais l'avenir est au peuple et au pays indépendants et souverains, je pense que c'est très important et c'est d'ailleurs un message aussi bien à un certain nombre de pays européens mais aussi à d'autres endroits du monde qui continuent, excusez-moi du terme, à être couchés derrière Washington et qui tout en comprenant, je pense, au parfaitement le processus multipolaire qui est devenu une réalité dans les affaires internationales, dans les affaires mondiales, n'ont pas le courage de se surpasser, y compris en refusant d'être à l'écoute de leur propre peuple. Et ces régimes existent à différents endroits du monde, même si je pense qu'aujourd'hui, dans la posture actuelle, ils sont minoritaires. Et le dernier point qui a été, je pense, très justement soulevé par le leader iranien, c'est le fait que, bien sûr, il faut privilégier toujours la diplomatie pour résoudre des différends, pour discuter, pour dialoguer, mais seulement avec ceux qui le mérite. Alors tant que l'Occident ne méritera pas justement d'avoir un dialogue, parce que tout simplement, tout dialogue honnête et sincère aujourd'hui avec l'establishment occidental est impossible, c'est un dialogue qui ne sert à rien, c'est juste une perte de temps, je pense que la détermination des principaux promoteurs de l'ère multipolaire, de l'ordre multipolaire actuel, la Russie, l'Iran, la Chine et leurs alliés respectifs, y compris dans le cadre de l'OSS, devront continuer à aller de l'avant et rester aussi déterminé qu'il le sent actuellement. Je pense que c'est ça la réponse à votre question.
Mikhail Egorov, analyste chroniqueur à l'Agence Observatoire Continental depuis le Maroc. Xavier Dupré, économiste, analyste politique depuis Bruxelles. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont débuté un sommet extraordinaire et crucial pour discuter du coup d'État militaire en Guinée. Il s'agit de la seconde réunion des dirigeants de ce bloc sous-régional de 15 pays depuis le coup d'État militaire du 5 septembre en Guinée. Les dirigeants ont reçu un rapport de cette délégation qui s'est rendue en visite en Guinée vendredi dernier pour s'entretenir avec les dirigeants de la junte militaire. Les présidents étudieront le rapport de la délégation et prendront une décision ferme sur la manière d'exercer des pressions sur la junte militaire pour ramener la Guinée à l'ordre constitutionnel avait déjà déclaré à Yorkorb Bouchvaï, présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, avant cette réunion. En Tunisie, le président Saïd évoque une réforme prochaine de la Constitution. Le président tunisien, Kais Saied, a annoncé samedi soir la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement et évoqué une réforme à venir de la Constitution lors d'un bain de foule nocturne à Tunis. Un nouveau gouvernement sera formé dans les plus brefs délais après des sélections de personnalités les plus intègres, a-t-il indiqué après avoir déambulé de sous bonne garde sur l'avenue Bourguiba qui traverse le cœur de la capitale. Il n'a pas donné de date précise pour la formation du gouvernement, ajoutant « Nous continuons la recherche des personnalités qui vont assumer cette responsabilité ». Il a aussi évoqué la constitution de 2014, affirmant qu'il la respecte, mais que l'on peut introduire des amendements au texte. Selon lui, le peuple tunisien a rejeté la constitution et les constitutions ne sont pas éternelles. Il faut donc, à ses yeux, amender en respectant la constitution, en gardant à l'esprit que la souveraineté appartient au peuple. La Libye annonce la réouverture de ses frontières avec la Tunisie. La Libye a annoncé qu'elle allait rouvrir ses frontières avec la Tunisie à compter en fait du vendredi 17 septembre après plus de deux mois de fermeture. Cette décision est le résultat de la rencontre entre le Premier ministre libyen Abdelmadjid Zaïba et le président tunisien Kais Saied en Tunisie il y a quelques jours, a précisé le service de presse du gouvernement libyen dans un communiqué. La rencontre entre les deux hommes a également débouché sur la formation d'un comité ministériel conjoint chargé d'évaluer la situation sécuritaire et sanitaire, laquelle a finalement pris la décision de rouvrir la frontière, a-t-il ajouté. Selon Tripoli, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre les mesures sécuritaires et sanitaires nécessaires pour faciliter la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Début juin, les autorités libyennes avaient fermé ses frontières en raison de l'augmentation du nombre d'infections au nouveau à coronavirus. Elles avaient ensuite décidé de les ouvrir en août. Cependant, la Tunisie a maintenu la fermeture en raison de l'instabilité de la situation pandémique dans les deux pays. Centrafrique, le Gabon va retirer ses troupes de la MINUSCA. Le gouvernement des Gabonais retirera d'ici juin 2022 son contingent des opérations de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique à l'occasion de la prochaine rotation des troupes selon des sources concordantes. Cette décision intervient à un moment où l'ONU est en quête de quelques 900 soldats destinés à renforcer la MINUSCA suite à des accusations d'exploitation et d'abus sexuels couplées avec des problèmes d'équipement des casques bleus en Centrafrique, a-t-on indiqué de même source. L'ONU ne s'est pas encore prononcée sur cette question, tandis que le gouvernement gabonais se propose à cet effet d'ouvrir une enquête. Une affaire similaire avait éclaté en mars 2018, mais n'a pas abouti au retrait des troupes. Par contre, les mêmes accusations à l'endroit du contingent de la République du Congo ont conduit au rapatriement des soldats. Des experts africains appellent à la fin du nationalisme vaccinal pour renforcer la lutte contre la pandémie. Les pays riches doivent mettre fin au nationalisme vaccinal qui est à l'origine d'une pénurie d'approvisionnement en Afrique et qui ralentit les efforts visant à contenir la pandémie de COVID-19 sur le continent, ont déclaré des experts lors d'un webinaire sur l'accélération de la vaccination contre la COVID-19 en Afrique. Michel Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine des médicaments, a affirmé que les pays riches du Nord ont la responsabilité de cesser d'accumuler des vaccins, ce qui a été contre-productif dans la lutte contre la pandémie. Il a souligné que l'équité vaccinale est essentielle pour éviter l'émergence de nouvelles souches de coronavirus, accélérer leur établissement et renforcer la résilience des systèmes de santé publics en Afrique. S'exprimant lors du webinaire organisé par la Brookings Institution, un groupe de réflexion basé à Washington, M. Sidibé a noté que la lutte de l'Afrique contre la pandémie a pâti du nationalisme en matière de vaccins. Un million d'enfants nigérians risquent de ne pas pouvoir aller à l'école en raison de la menace de violence après une série d'enlèvements massifs et d'attaques visant des étudiants cette année, a déclaré l'Agence des Nations Unies pour l'enfance de l'UNICEF. Plus de 37 millions d'enfants nigérians doivent commencer la nouvelle année scolaire ce mois-ci, mais cette année, ce moment est volé à environ 1 million d'enfants nigérians car l'insécurité menace leur sûreté et leur éducation, a déclaré dans un communiqué le représentant de l'UNICEF au Nigeria. Selon l'UNICEF, il y a eu cette année 20 attaques contre les écoles au Nigeria. Plus de 1400 élèves ont été enlevés et 16 sont morts. Enlevés par des bandes criminelles dans les États du Nord-Ouest et du centre du pays, la plupart ont été libérés après négociation d'une rançon après des semaines ou des mois de captivité, souvent dans des conditions épouvantables dans des camps ruraux. Les familles et les communautés craignent toujours de renvoyer les enfants dans leur salle de classe en raison de la vague d'attaques d'écoles et d'enlèvement d'élèves, selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Les États du nord-ouest et du centre du pays sont depuis longtemps en proie à la violence entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs nomades qui se disputent les terres et l'eau. Les attaques se sont intensifiées avec l'émergence de bandes criminelles lourdement armées, connues localement sous le nom de bandits, qui pillent les villages, volent le bétail et kidnappent pour obtenir une rançon. C'est la fin de cette émission consacrée à l'actualité africaine. Merci infiniment de l'avoir suivie.